famille des peuples, rendez au Seigneur, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel. Apportez des offrandes. Entrez dans ses parvis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples, la bonne nouvelle. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il nous invite à chanter. Et alors, je vous invite à ouvrir vos cantiques. Au numéro 8, et pendant que nous sommes encore debout, nous allons chanter ces paroles en nous imprégnant de leur sens lorsque le ciel prétendit de louange, que notre culte soit en accord avec celui qui est célébré dans le ciel, lorsque le ciel retombe de bon, et qu'ici-bas régnait la sombre nuit, repassons dans mon cœur ce qui s'est fait. Jésus naquit, plus humble que les anges, pour me sauver. Ici-bas, il descendit. Nous chantons les quatre strophes en répétons ce cœur, bonheur suprême, mon sauveur même, pénétrez-vous de cela, vous êtes aimé par le Seigneur, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté.
Thank you.
mes bien-aimés, sur cette voie de l'éternité dans laquelle nous sommes entrés. Nous écoutons ce que l'apôtre Paul nous déclare au verset 14e du chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. L'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Personne n'a à se sentir visé d'une manière quelconque. Nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas comme certaines versions le disent, une nouvelle créature. La créature est la même. Mais tout en lui a été créé. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. De lui, par lui, pour lui sont toutes choses. Tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole pour nos cœurs. Qu'elle trouve aussi ce matin le chemin de nos consciences et qu'elle nous incite à entrer dans la loi. Vous savez, mes bien-aimés, que la loi a été résumée aussi bien par les docteurs justes que par le Christ en deux commandements. Cette loi qui si souvent est lue au début des cultes dans de nombreuses églises. Et quelquefois, eh bien, c'est le sommaire de la loi qui est simplement rappelé aux âmes qui sont recueillies dans la présence de Dieu. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le schéma qu'Israël. Et le second, disait Jésus, qui lui est semblable et qui est la réalisation pratique et visible du premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux grands commandements dépend toute la loi et les prophètes. Le Seigneur a mis sur mon cœur, toujours dans ce thème, connais-toi toi-même, d'introduire ce culte d'adoration où nous voulons laisser l'Esprit nous diriger les uns et les autres pour que, comme nous disions tout à l'heure, le Père des cieux qui a donné la semence et qui a semé lui-même dans les cœurs puisse trouver en ce moment, cette journée, une moisson pour lui. Et pour moi, le culte d'adoration, c'est la moisson du Père. Ce Père qui cherchait des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Et c'est Jésus qui est venu les chercher et les trouver pour satisfaire le cœur du Père. Et la première personne qu'il a trouvée et qu'il a enseignée dans l'adoration, c'est une Samaritaine. Que c'est beau, que c'est merveilleux. La plus indigne, eh bien, si parmi nous 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 sentons aussi indignes que la Samaritaine, nous sommes conviés à devenir ces adorateurs qui adore le Père en esprit et en vérité. Oh, que nous puissions être déjà dans cette assurance que le Seigneur nous a pris. Il a fait un long chemin pour une seule âme et il l'a rencontrée alors qu'elle ne l'attendait pas. S'aimer soi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, s'aimer soi-même, c'est s'être accepté soi-même. C'est la première chose. Et je me demande si plusieurs parmi vous ne souffrent pas encore de ce fait qu'ils ne se sont pas acceptés eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne se sont pas acceptés tels qu'ils sont. Ils auraient voulu d'autres yeux, bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, disait celui. Mais, mes amis, vous avez les yeux que Dieu vous a donnés. Bénissez Dieu pour les yeux qu'il vous a donnés. Alors que tant d'autres sont aveugles. Vous aviez fait désirer être grand et vous avez plutôt une petite taille. Ça ne vous empêchera pas de voir le Seigneur. Zachée, si petit. Il a voulu voir le Seigneur et il a fait le nécessaire pour le voir, mais caché dans le sycomore, eh bien, il aurait pu passer inaperçu. Et pourtant, le Seigneur l'a regardé. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de se montrer fort à l'égard de celui qui a un cœur entièrement à lui. Les regards se sont rencontrés, lâchés, défendus. Il faut que j'entre dans ta maison. N'est-ce pas merveilleux quand on a le désir de rencontrer le Seigneur? Il vient à la rencontre de ceux qui le recherchent. Vous pouvez en être certain. Alors, vous êtes-vous accepté vous-même? Avez-vous compris que vous êtes de la race de Dieu? Et puis, s'il y a quelque anomalie, eh bien, vous avez un Dieu qui en prend les responsabilités et qui n'a pas peur que nous soyons scandalisés quand nous l'entendons dire à Moïse dans le chapitre 4 de l'Exode, verset 11, « N'est-ce pas moi ? Qu'est-ce qui a donné une bouche à l'homme ? N'est-ce pas moi l'Éternel ? Et qui a fait le muet, le sourd et l'aveugle ? N'est-ce pas moi ?» dit l'Éternel. Il prend la responsabilité même de nos infirmités et il sait qu'un jour peut-être, à cause de cette infirmité, nous ne manquerons pas le but parce que nous l'aurons glorifié au sein même de notre infirmité. Tandis que si nous avions nos jambes, nous serions comme tout le monde pour courir dans le monde, comme court Satan, nous serions nous aussi de ces gens jamais arrêtés et qui ont besoin de tout voir, de tout entendre pour que leur cœur soit soi-disant rempli alors qu'il reste vide, éternellement vide. Oh, que le Seigneur nous parle et que nous puissions ce matin comprendre que le premier pas sur le chemin de l'éternité, c'est s'accepter soi-même. Si vous vous aimez vous-même, reconnaissant que vous êtes de la race de Dieu, que Dieu est votre créateur, vous ne doutez pas de ses voies, même si elles vous paraissent incompréhensibles, il n'y a pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Alors, si vous avez compris que vous êtes de la race de Dieu, la seconde chose qu'il ne voudrait pas faire, alors, c'est de s'abuser soi-même. « Ah, mais je suis de la race de Dieu. De plus que je suis de la race de Dieu, je puis tout me permettre, je puis tout faire, et puis je puis même me passer de Dieu. Je puis me passer de ce Père éternel. Je veux vivre ma vie. Je suis indépendant. J'ai une origine extraordinaire. C'est Dieu qui m'a créé, alors je m'accuse moi-même. » C'est ce qu'il est dit dans le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, comme aussi dans le chapitre 6 de l'épître aux Galates, que personne parmi vous ne s'abuse lui-même, ou ne s'illusionne sur ce qu'il est lui-même. Parce que c'est là la grande illusion, ben, puisque je suis de la race de Dieu, je suis Dieu, en quelque sorte. Le Père, bien, à un moment donné, il se retire. Oui, il est mort, le Père est mort, c'est la mort de Dieu, c'est la mort du Père. Il y a bien longtemps que cette théologie court les rues. Eh bien, ne vous abusez pas vous-même, parce qu'alors vous feriez exactement comme si l'enfant du chapitre 15 de Luc, qu'on a appelé l'enfant prodigue, qui n'a pas besoin du Père, sinon pour lui réclamer son bien. Père, donne-moi le bien qui me revient. Le plus jeune fils qui s'abuse lui-même et qui veut jouir maintenant des biens de son Père. Au fond, c'est lui dire, Père, tu mets trop de temps pour mourir, donne-moi l'héritage. Ça va trop long. Et au fond, il supprime dans sa pensée, il tue le Père. Et c'est exactement ce que nous faisons quand nous nous abusons nous-mêmes, nous tuons le Père. Nous sommes des assassins de Dieu. Alors, frères et sœurs, puissions-nous ne pas nous abuser nous-mêmes et ne pas faire comme l'enfant prodigue. Le Père aurait pu boucler son fils dans une des chambres de sa belle demeure. Il ne l'a pas fait. Il nous laisse cette liberté. Et il partage son bien, et le fils s'en va. Et il vit sa vie dans le monde et dans la débauche. Et qu'est-ce que le monde donne? Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, ayant tout dépensé, ayant vécu dans la débauche selon les plaisirs de ses sens, eh bien, finalement, il est brûlé, il est usé, et puis, quand vous n'avez plus rien à donner, quand le monde ne peut plus rien vous prendre, parce que vous savez, c'est vrai la parole de Jésus qui dit, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde a l'air de vous donner quelque chose, mais il vous possède, il vous prend, et quand il vous a tout pris, il vous laisse tomber. Ça, c'est le monde qui a pour prince Satan, qui vous fait croire qu'avec lui vous aurez la liberté, qu'avec lui vous serez heureux, et quand il vous a tout pris, il vous laisse tomber, et quand vous êtes par terre, il viendra encore vous donner le dernier coup de pique. Car Satan est un meurtrier. C'est le commencement et c'est un menteur. Alors, ne vous abusez pas sur vous-même, car vous devriez faire cette expérience douloureuse de l'enfant prodigue, et qui, alors, tout à coup, se rend compte de ce qu'est le monde, il a faim. Et personne ne lui donne rien, personne ne s'intéresse, ses amis tous l'ont abandonné et il cherche un travail et il ne trouve que celui de gardien de pourceaux, c'est tout ce que le monde vous offre, garder des pourceaux. Et même, il désirait manger les gousses que les pourceaux mangeaient, mais personne ne s'intéressait à lui. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, voilà, c'est le troisième point que j'ai à vous signaler sur le chemin de l'éternité. Quand on s'est accepté soi-même, eh bien, et qu'on ne s'est pas abusé soi-même, ce qui arrive, eh bien, de toute façon, nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes. Et Job, lui, n'a pas appris à se connaître lui-même en faisant les expériences du fils prodigue. Dieu l'a amené à se connaître lui-même par un autre moyen. Et c'est ce moyen-là que nous allons continuer et d'étudier. Tandis que l'enfant prodigue, faisant sa volonté, s'étant abusé lui-même, il doit apprendre. Apprendre d'une façon tragique ce qu'il est. Et comment s'il a fait ça? Étant rentré en lui-même. Il faut rentrer en soi-même. Parce qu'avant, il était hors de lui, dans une terre étrangère où il est allé. Mais maintenant, il rentre en lui-même. Et c'est là tout le travail de Dieu dans une âme. et nous fait rentrer en nous-mêmes pour que nous puissions nous rendre compte de ce que nous sommes, que nous ne sommes rien. Et alors là, rentré en lui-même, il apprend qu'il n'est plus rien. Et il s'écrit, fait son compte, que le mercenaire de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Il voit qu'il s'est grossièrement trompé, et ce travail du Dieu qui se fait au plus profond de son cœur, quand il est au milieu des pourceaux, l'amènera, ayant appris à se connaître lui-même, qu'il n'y a rien de bon en lui, parce qu'il n'a plus maintenant que des haillons. Il est parti riche de la maison du Père, il y retourne, revêtu de haillons, ayant la détresse dans l'âme, n'ayant plus aucune prétention, se préparant à dire « Père, j'ai péché ». Quand on est entré en nous-mêmes, nous découvrons le péché. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne même d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voyez-vous, il fait le compte avec lui-même, et il voit qu'il est perdu. Avez-vous passé par là? Est-ce que vous avez fait le compte avec vous-même? Que c'est fini, qu'il n'est pas question d'une amélioration de votre état. Il n'est pas question de ça. Il est question de retourner vers le Père. Mais en ayant accepté que nous sommes perdus. Et il fait ce chemin. Et il retourne vers son Père, parce qu'il est arrivé à ce renoncement à lui-même. Il renonce à lui-même. C'est fini. Il a la haine de lui-même. Renonce à toi-même. Mais comment renoncer à moi-même? Je croyais m'aimer et ma vie me paraissait tellement formidable. Je m'amusais sur ce que j'étais. Et puis maintenant, j'ai compris. Alors, frères et sœurs, si vous avez compris dans ce temps, si vous avez fait votre compte définitif, vous n'y reviendrez plus. Vous n'attendez pas une amélioration de la chair. La chair reste la chair, ce qui est née de la chair, c'est chair. Mais vous vous confiez maintenant entièrement au Seigneur. Renonce à toi. Viens, suis-moi, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas connaître. Il ne sait pas la grâce du Père. Le Père l'a toujours attendu. Le Père l'a toujours aimé. Même quand il était loin avec les prostituées, quand il vivait sa grande vie de débauchée, le Père l'aimait encore. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est que lui qui avait tué mentalement le Père, il aurait pu se dire, mais depuis que je suis loin, mon Père a pu mourir. Mais voilà qu'en arrivant à la maison, son Père est là, bien vivant, qui l'attend, et c'est lui qui apprend qu'il était mort. Mon enfant qui était mort, il est revenu à la vie. Nous pensons avoir tué le Père, il nous apprenons que c'est nous. Nous étions morts, vraiment dans nos fautes et dans nos péchés. Et puis maintenant, voilà le Père et les rencontres ineffables. Le Fils n'a pas encore le temps de dire tout ce qui est dans son cœur. Père, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. La confession des péchés, eh bien, il n'a presque pas même besoin de le faire. Le Père l'accueille avec un tel amour que tout de suite, il lui dit, c'est lui qui le transforme. Il n'a pas pu passer quelque part pour se mettre de bons vêtements. Non, il est dans Lyon, il est dans cette situation-là. Et c'est le Père qui commande à ses serviteurs à porter la plus belle robe et l'en remettre, tuer le bon drap. Mettons une alliance, un anneau à ses mains, et puis mangeons et faisons votre chair. Voilà le culte. Voilà le culte qui doit être la joie du Père. Ce n'est pas le Fils qui se réjouit d'abord. c'est le Père qui est dans la joie. Dans un culte, c'est le Père qui devrait être dans la joie. Entrons dans la danse, en faisant le chant, dans le cantique, salmodions au Seigneur, que nos cœurs débordent. Voyez-vous, quand un père invite ses enfants, et que les enfants voudraient être super spirituels. Vous voyez, ça serait clair, dire au père, le père a préparé un bon repas, puis les enfants disent non, nous voulons prier, nous voulons faire une réunion de prière, si nous sommes dans le coin, pour faire des demandes. Non, il y a un temps pour les demandes, vous pouvez demander, mais dans un culte d'adoration, c'est pas des demandes que nous devrions faire, c'est vraiment rassasiement que nous partageons avec le Père, nous sommes à sa table, nous mangeons les mets de sa table, la table du Seigneur elle est servie, et la table du Seigneur n'a pas que les signes de la mort et de la résurrection du Christ, le pain et le vin, la table du Seigneur, c'est des tables où les rachetés ont leur place, sont rachetés à sa place, à la table du Seigneur. Gardez-vous d'en exclure un seul de ces rachetés. La table du Seigneur, elle est pour tous les enfants, pour tous ceux qui sont revenus à la maison paternelle, même s'ils sont revenus en alliant. Ils ne paraissent pas devant le Père en haillons. Vous ne paraissez pas dans le culte en haillons devant le Père. Pourquoi? Parce que il vous a revêtu, vous avez disparu, vous êtes mort. Ce vieil homme a été crucifié, il a été vraiment enseveli, il est dans le tombeau, il y a un homme nouveau. Et c'est comme des hommes nouveaux que nous entrons ce matin dans l'adoration. Il n'est pas question de se sentir nouveau, il est question de croire que lui a fait toute chose nouvelle, et de croire ce qu'il nous dit, qu'il nous voit dans les perfections de son Fils. Finissez-en de vous regarder vous-même et de vous dire, je suis pas digne, moi, ma vie spirituelle, elle cloche encore. Fini toutes ces choses, c'est qu'alors vous ne croyez pas que vous êtes réellement mort dans le Christ, que vous avez été enseveli avec lui. Le Christ n'est pas mort seulement pour nos péchés, oui, la table du Seigneur nous rappelle sa mort pour nos péchés, mais ça va beaucoup plus loin que Christ mort pour nos péchés. Le corps du péché a été détruit. Ce qui provoque les péchés, eh bien, croyez-le, que le corps du péché a été détruit, il a été enseveli dans la mort de Christ. Christ a pris non seulement nos péchés, mais il a pris le corps du péché. Et le corps du péché a été enseveli, et la chair est maintenue par la puissance du Saint-Esprit dans la mort. Alors nous ne nous occupons plus de la chair, de ce que nous pouvons ressentir, mais nous croyons éperdument ce que Dieu nous dit. Comme nous avons cru un jour, sans sentir que le Christ avait porté nos péchés, nous avons cru. Et au fond, le sentiment est venu après la foi. Tandis que, bien souvent, nous voulons d'abord sentir, puis après nous aurons la foi. Quand je sentirai que je suis mort, vous n'allez pas sentir que vous êtes mort, vous le serez. N'est-ce pas? C'est pas une affaire de santé. C'est pas une affaire de santé, c'est une affaire de je suis mort. Et du verset 6 des Romains, considérez-vous pour mort. Ne regardez plus à vos sentiments et croyez. C'est par la foi que vous avez cru que Jésus avait porté vos péchés. C'est de même par la foi que vous croyez que vous avez été conçu en lui dans un Seigneur. Et c'est ça qui est tellement merveilleux, de sorte qu'on en arrive à une autre étape. Maintenant, on va avoir les moments de prière à la Sainte Grâce, puis nous arriverons à la suprême à Sainte Grâce, parce que le Saint-Esprit, à la Sainte Seine. Alors, examinez-vous vous-même, n'est-ce pas? Il faut s'accepter soi-même. Puis maintenant, quand on arrive à la table du Seigneur, examinez-vous.
vous-même. Ne faites pas cela par habitude, ne faites pas cela par routine, ou simplement, ben voilà, peut-être que je recevrai une bénédiction, ou bien en vous disant, moi je ne peux pas aujourd'hui communier, parce que je ne suis pas en règle, etc. Et puis, où je suis trop indigne, j'attendrai. Vous attendrez tellement que vous ne vous avancerez jamais. Le Seigneur n'est-il pas digne que vous répondiez aux désirs de son cœur? Et si vous vous sentez indigne, est-ce qu'il n'est pas capable de vous purifier? Alors jugez-vous vous-même. Si vous vous jugez vous-même, vous ne seriez pas juste. Et nous croyons qu'à au repas du Seigneur, il se passe quelque chose. Alors nous allons être des adorateurs ce matin. Non pas des adorateurs du parler. Hein. Nous sommes seulement séparés du monde, nous avons cru au Seigneur Jésus, et nous sommes sur le parler. Non, nous allons plus loin. Est-ce que vous serez des chrétiens du parler, des chrétiens de l'autel qui sont... On a l'Église de Christ est mort pour le péché, alors on va être des chrétiens de l'autel, ou bien alors des chrétiens de la cuve d'airain, on s'humilie, on se purifie. Oui, c'est vrai, sur une façon, là, mais il faut aller plus loin que la cuve, il faut entrer dans la maison. Nous avons une libre entrée pour être dans la maison. Pourquoi? Parce que nous avons une prétention? Non, mais c'est parce que c'est le Père qui nous invite. L'œuvre a été accomplie à travers le voile, c'est-à-dire la chair du Christ. Eh bien, une porte est ouverte et nous pouvons entrer librement, non seulement dans le lieu saint, où étaient les sacrificateurs, mais dans le lieu très saint, devant la face de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Père peut nous recevoir ainsi? Parce qu'il nous reçoit comme son Fils lui-même. À sa table, vous êtes reçu comme si vous étiez le Fils lui-même. Ça vous dit rien? Est-ce que devant un tel amour, nous ne nous comprenons pas? Est-ce que devant un tel amour, nous n'allons pas comprendre tout ce que la mort de Jésus nous a apporté? Et pourquoi? Pourquoi Jésus a dû dire à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que Pierre s'opposait à la mort du Christ. Mais s'opposer à la mort du Christ, c'était perdre toutes les bénédictions. Si Christ n'était pas mort, la question de nos péchés ne serait pas réglée. Si Christ n'était pas mort, nous serions toujours des vivants qui essayons d'imiter le Seigneur sans jamais arriver, et nous serions continuellement plongés dans le découragement, nous attendrions encore l'amélioration de la chair, mais nos péchés que nous avons commis dans la chair ont été jugés dans la chair du Christ, de sorte que Dieu ne s'en souvient plus. Et il ne se souvient plus de nos péchés. Alors ne rappelez pas vos péchés dans un culte. Il est mort pour nos péchés. Soyez dans la joie, dans la reconnaissance. Votre conscience étant purifiée par le sang précieux du Christ, saisissez la vie éternelle, vivez de cette vie éternelle. C'est ça votre vie, vous n'en avez pas d'autre. La vie est où? Dans le Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que vous l'avez reçu? C'est pas une question de sentir, c'est une question de le croire. Père, j'ai accepté ton Fils, oui, c'est vrai. Et puis maintenant, je ne m'occupe plus de ce que je ressens. Je m'occupe de ce que tu dis. Et je te fais éperdument confiance pour mon avenir. Demain, tu y pourvoiras et je suis dans la paix. Et bien serez-vous comme le Fils aîné? Théoriquement, semble-t-il, ne s'est pas éloigné du Père, mais ne connaît pas son Père. Elle ne peut pas se réjouir. Elle ne peut pas participer au repas. Pourquoi? Je suis toujours avec toi. Et puis, tu ne m'as pas même donné. Pas à même un chevreau pour que je puisse faire bonne chère avec mes amis. Au fond, crevez d'envie de faire comme le fils prodigue. On était là, à la lune. On n'avait pas de relation avec le père. On ne connaissait pas le père. Et alors on a un esprit de jugement sur lui. Et on découvre que c'est faux. Ce que le père n'a pas. Eh bien, jugeons-nous nous-mêmes. Ne jugeons pas nos frères. Et maintenant, allons-nous à la branche. Amen.